communauté passée avec ceux que l'on baptisait familièrement les situs. Pourtant, ces hommages continuels n'ont toujours pas dissipé les nombreux embarras que suscite le sujet, ni les confusions qu'ils auraient pu plutôt tendance à alimenter. Il est vrai que l'Église elle-même a longtemps fait l'objet d'invraisemblables affabulations. On a d'abord beaucoup glosé sur le nombre de ses participants, entretenant le mystère, son bulletin fournissant en 1963 la réponse suivante, un peu plus que le noyau initial de Guérilla dans la Sierra Maestra, mais avec moins d'armes, un peu moins que les délégués qui étaient à Londres en 1864 pour fonder l'Association internationale des travailleurs, mais avec un programme plus cohérent. Dans les faits, la structure née de la fusion de plusieurs groupes d'avant-garde artistique a compté 70 membres, 63 hommes et 7 femmes, de 16 nationalités différentes en 12 ans et 6 mois d'existence. La pratique coutumière des exclusions, 45 des 70 membres ont été exclus, et des démissions a cependant toujours limité à une dizaine le nombre de participants simultanément présents en son sein. Aux sources d'allégations fantaisistes, leur projet révolutionnaire. Cette cause, fruit d'une singulière rencontre entre radicalité artistique et politique, ils avaient choisi de la fonder eux-mêmes. L'origine, le parcours, le tempérament et les aspirations de ces agitateurs s'avéraient pour le moins atypiques. Insurgés, les définiraient d'un mot. Ces adeptes d'un refus total s'étaient d'abord révoltés au sortir de l'adolescence contre la vie même. Ne travaillez jamais, assénait-il, en commençant par donner l'exemple à travers des conduites en tout point scandaleuses, tout à la fois fondement et application de leur première théorie. Bohème par choix et en majorité autodidacte, ils s'étaient dressés contre les mouvements dadaïstes et surréalistes, dont ils étaient les héritiers directs et les enfants terribles, une rupture salvatrice destinée à assurer leur complète émancipation. Ce combat contre l'ordre du monde, ils le préparèrent en se composant progressivement un vaste champ culturel, mêlant à des auteurs ou des créateurs d'avant-garde, tels que Arthur Cravan, André Breton, Benjamin Perret, Antonin Artaud, Malevich, James Joyce, des œuvres de romanciers de Sade, de Kinsey, et de poètes, Omar Khayyam, Lautréamont. De mémorialistes, le cardinal Loretz, Casanova, et d'essayistes, Machiavel, Balthazar Gracien, Clausewitz et Hegel. Leur politisation résulta, elle, d'une lecture critique des écrits de Marx, de Bakounine, de Fourier et de Nietzsche, sans ignorer ceux des marginaux du marxisme, tels que Karl Korsch, Anton Pankirk, Georges Lukács, et de l'anarchisme, Max Stirner, Georges Darien. Pétris d'histoire, ils manifestèrent un intérêt tout aussi vif pour les bandits sociaux, Cartouche, Mandrin, Bonneau et associaux, Villon, Lassonnaire, les grands insurgés oubliés, Matenot, Durruti, Pancho Villa, ainsi que les hérésies et autres mouvements religieux millénaristes. Cette culture livresque, liée à l'étude du mouvement ouvrier de la Commune de Paris à la Catalogne libertaire de 1937, les conduisit rapidement à propulser la social-démocratie, le marxisme-léninisme et l'orthodoxie anarchiste dans les poubelles de l'histoire pour faire du courant situationniste une pratique, une critique et une théorie radicale. Considérablement influencé par les travaux de quelques pionniers dont ils croisèrent souvent la route, Isidore Isou, Henri Lefebvre, Cornelius Castoriadis, et par la fusion qu'avaient forgée les surréalistes, à partir des mots d'ordre de Rimbaud et de Marx, les situationnistes souhaitaient à leur tour changer la vie et transformer le monde en réalisant l'art et la philosophie. Se voulant l'aiguillon d'une révolution intégrale, ils considéraient que le prolétariat organisant le conseil ouvrier pouvait désormais accomplir sa mission historique grâce à l'automation et la cybernétique en réalisant le vieux rêve d'une société sans maître ni esclave. L'abolition du travail, du salariat, du capital et de la marchandise devait ouvrir une ère nouvelle. La vie quotidienne libérée sur les ruines des médiations et du spectacle reposerait sur une suite ininterrompue de situations, autrement dit, de moments construits de la vie, dont on ne connaissait encore que les contours par le biais d'un ensemble de comportements expérimentaux, tels que la dérive, la psychogéographie. Voilà résumé à grands traits un ambitieux projet dont les accents utopiques considérés comme porteurs d'espoir, crise de l'art moderne, développement du machinisme, prémisse apparente d'un nouveau assaut prolétarien, processus de décolonisation, rébellion de la jeunesse dans le monde. Dans leur optique insurrectionnelle, les situationnistes ont d'abord pensé utiliser la culture comme ligne de front, avant d'opter pour une stratégie ouvertement politique à distance des organisations et des partis existants. L'IS, compte tenu de ses origines et de ses interventions, entendant ne plus opérer de distinction entre les domaines politiques et culturels. Ses détracteurs ont ainsi joué de cette optique pendant des décennies pour justifier leur silence ou leur calomnie. Les spécialistes de l'art les repoussaient dans le champ politique et inversement, La modernité que représentait l'IS au-delà de ses analyses et de ses propositions reposait aussi sur sa manière de s'exprimer. Grand lecteur de romans populaires, de Dumas à Saxe-Rohmer, ils ont chéri les bandes dessinées, la série noire et ses adaptations cinématographiques, ou la science-fiction, soit l'univers des productions commerciales découvertes depuis la libération, que les bien-pensants tenaient déjà pour une sous-culture des plus douteuses. L'appréhension de cette vaste mosaïque permet d'identifier pleinement l'origine et le sens de l'expression situationniste, au niveau du fond et surtout de la forme. L'intégration et le détournement de comiques, de photos, de films ou d'extraits de photoromans dans leurs publications n'ont ainsi jamais relevé d'une volonté décorative ou d'un second degré prébranché, mais d'un véritable intérêt associé à une stratégie de communication mûrement réfléchie. Alors, je vais enchaîner sur le détournement, quelques informations. Alors, peut-être que je pourrais aussi continuer en parlant du mouvement situationniste dans son étendue. Lorsqu'on constate le fourmillement de groupuscules et de revues aux noms énigmatiques, farceurs ou menaçants qui sont apparus pendant près de 40 ans dans le sillage de l'international situationniste, ainsi que l'activité incessante de leurs animateurs, se perdant dans des débats, des exclusions et des scissions sans fin, on peut se demander s'il n'y a pas un plaisir intrinsèque à la création débridée de cercles affinitaires, communautés secrètes et autres organisations plus ou moins fantomatiques. En plus de dévoyer certains groupes et individus des diverses fédérations en or, de France, d'Italie en particulier, ou de l'extrême-gauche et l'ultra-gauche, l'influence situationniste donna naissance à des antigroupes au nom improbable, l'Association internationale des jouisseurs, le Front de libération totale, l'Institut de préhistoire contemporaine, le groupe révolutionnaire conseilliste d'agitation, le Centre de recherche sur la question sociale, la Fondation pour le dépassement de l'économie préhistorique, l'International Nexialis, les Amis de 4 millions de jeunes travailleurs, l'Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires, les Fossoyeurs du Vieux Monde, Os Cangaceros, la Bibliothèque des Émeutes, l'Observatoire de téléologie, le Quartier général d'exploration passionnelle, le Bureau pour la création du monde, l'Encyclopédie des nuisances, le Comité européen pour la relance d'une expansion humaine, le Conseil pour la libération de la vie quotidienne, le Bureau des secrets publics, et ailleurs, le Council for Conscious Existence, le Council for Eruption of Marvelous, etc., etc. Pour revenir au détournement, le pionnier dans la pratique du détournement est certainement Isidore Ducasse. En son temps méconnu, sauf de certains symbolistes qui voyaient en lui un romantique attardé, il sera plus tard redécouvert et adulé par les surréalistes. Son œuvre se concentre essentiellement en deux ouvrages parus en... Oh, j'ai oublié de marquer les dates, là, mais c'est dans la fin des années... fin du 19e siècle. Les Chants de Maldoror, publiés sous le pseudonyme du comte de Lautréamont, et les Poésies. Si dans les Chants, il s'attache à l'exposition du mal, dans les Poésies, par un effet de balance dialectique, il explorera plutôt le bien en détournant des maximes de moralistes telles que Vauvenargues ou Pascal. Et une de ses pensées dit « Le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique ». Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Les surréalistes seront donc les premiers à prendre l'Outre-Amont au sérieux et à mettre en pratique certaines leçons qu'il leur aura inspirées. Si ce sont les surréalistes parisiens, Breton, Aragon, Soupault, qui le présentent dans leur publication comme le précurseur de l'écriture automatique et l'annonciateur de l'utopie d'une création collective généralisée, une autre citation de l'Outre-Amont dit que la poésie doit être faite par tous, non par un. C'est en revanche chez les surréalistes bruxellois réunis autour de Magritte et Nouget que la dimension détournement sera la plus déterminante. En effet, les surréalistes belges n'accorderont que peu d'importance à l'écriture automatique ou à la psychanalyse, mais seront toujours sollicités par l'esprit ludique dans leur propension à la mystification et au canular. Nouget, par exemple, réécrira de façon poétique des exemples grammaticaux tirés d'une grammaire trouvée au marché aux puces, dont l'auteur était une dénommée Clarisse Juranville, qu'il publiera d'ailleurs anonymement sous le titre, sous le titre « Quelques écrits de Clarisse Juranville » en 1927, ce dont parle. Nouget parlera donc d'imitation perverse. L'on pourrait remarquer, puis une citation de Nouget en question dit, l'on pourrait remarquer que le mensonge cesse d'être mensonge dans l'instant où il réussit. Le surréaliste ira jusqu'à écrire un roman constitué entièrement, ira jusqu'à écrire un roman constitué entièrement de fragments de divers auteurs dont le titre est Les jours dangereux et les nuits noires. C'est un livre qui a été écrit juste à partir de des bouts de romans de plusieurs auteurs, une trentaine d'auteurs. Alors c'est un exemple extrême de détournement. C'est donc dans la période pré-situationniste de l'International Lettriste que Debord et Wallman effectueront un rapprochement avec la publication surréaliste Les Lèvres Nues, dirigée par Marcel Marien, fils spirituel de Paul Nouget, qui sera le révélateur de l'œuvre de ce dernier. On lui doit donc l'édition d'un texte capital de Debord et de Wallman qui s'appelle « Mode d'emploi du détournement » dans le numéro 8 de la revue de mai, le numéro de mai 1956, où le détournement se verra théorisé de façon systématique pour la première fois. Ils définiront les divers types de détournement, détournement mineur, détournement abusif, etc. Ils iront jusqu'à affirmer. D'ailleurs, j'ai ici le document en question que je vais vous montrer, le numéro 8 de Les Lèvres Nues. Alors, voir la page 5, un petit extrait à vous lire. Les premières conséquences apparentes d'une généralisation du détournement, outre les pouvoirs intrinsèques de propagande qu'il détient, seront la réapparition d'une foule de mauvais livres, la participation massive d'écrivains ignorés, la différenciation toujours plus poussée des phrases ou des œuvres plastiques qui se trouveront être à la mode, et surtout une facilité de la production dépassant de très loin par la quantité, la variété, la qualité, l'écriture automatique d'ennuyeuses mémoires. Non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais encore se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne peut manquer d'apparaître un puissant instrument culturel au service d'une lutte de classe bien comprise. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie avec laquelle on bat en brèche toutes les murailles de Chine de l'intelligence. Voilà un réel moyen d'enseignement artistique prolétarien, la première ébauche d'un communisme littéraire. Deux mots sur notre ami Viennet, qui était l'auteur de ce film qu'on va présenter. Alors, René Viennet, c'est un sinologue, cinéaste, éditeur. Il était membre de l'IS de 1963 à 1971, l'année de sa démission. Il a co-signé un article dans le numéro 9 de la revue internationale situationniste, puis il a livré un article aussi dans le numéro 11. Dans les années 2000, il a été interviewé sur France Culture. Il a décrit ses anciens camarades comme une bande d'hédonistes humoristes mettant en œuvre une résistance au stalinisme dominant alors l'intelligentsia. Il travaillera comme sinologue-chercheur au CNRS durant les années 70. Il enseignera également le chinois à Polytechnique de 1974 à 1978. C'est en 1965, par la lecture de Tao Te Ching, The Chinese Revolution, qui a commencé à faire la critique radicale du maoïsme, qui va être relayée ensuite quand il a fondé la bibliothèque, ce qu'il appelle la bibliothèque asiatique, aux éditions Champ Libre. Son ami Simon Leys, dont le véritable nom est Hickmans, Pierre Hickmans, qui était consul de Belgique en Chine, justement, va alimenter cette bibliothèque asiatique avec quelques titres comme Les Abinops du président Mao, Révocule dans la Chine pop, Ombre chinoise, des titres comme ça. On a ces livres-là dont je parle, on les a à la librairie en bas. Donc, c'est ça. Fait que je pense que je vais arrêter ça là, puis on va présenter le film. Si vous avez des questions après,